Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir pour ce troisième rendez-vous des fractions avec Camille de Toledo et ses fantômes de l'histoire. Les extraits de ces textes seront lus par Sophie Magnon et la rencontre sera animée par Camille Thomine, à qui je laisse tout de suite la parole. Très bonne soirée.
Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre consacrée à l'œuvre de Camille de Toledo et plus particulièrement à son travail sur la mémoire et les fantômes de l'histoire. Je rappelle juste en deux mots que cette rencontre, elle s'inscrit dans un cycle de soirées, un nouveau cycle de rencontres de la BPI, qui est destiné à prolonger tout au long de l'année le festival de littérature Effraction, qui propose donc de faire dialoguer la littérature avec d'autres disciplines de l'art ou des sciences humaines et sociales. Et ce soir donc l'histoire avec Camille de Toledo, que je remercie également d'avoir quitté la douceur de Berlin pour la moiteur de Paris. Et je salue aussi Sophie Magnot, qui est dans le public, mais qui va nous rejoindre et qui va accompagner cet échange par des lectures d'extraits. Alors évidemment, autour de cette question de la mémoire des fantômes de l'histoire, on pourrait citer beaucoup de vos livres, Camille de Toledo, puisque nombreux sont ceux qui s'y rattachent. Je pense à votre trilogie européenne parue au Seuil et composée de votre essai sur la tristesse européenne, Le être et le boulot en 2009, composée aussi de Vie potentielle en 2011 et de Oublier, trahir, puis disparaître en 2014. Je pense aussi à la thèse que vous avez consacrée à l'histoire du vertige de Cervantes à Sebald. Ça, c'était une thèse que vous avez soutenue en 2019. Et je pense aussi au premier de vos romans graphiques consacré à la figure de Théodore Herzl. Herzl, une histoire européenne, illustrée par Alexander Pavlenko, Théodore Herzl étant cet écrivain journaliste qui a été l'une des premières figures à revendiquer la nécessité de créer un État juif autonome. Mais aujourd'hui, on a décidé de se concentrer sur trois textes en particulier que je ne vais pas citer dans l'ordre de leur parution, mais plutôt dans l'ordre de leur apparition au cours de cette conversation. D'abord, Thésée et sa vie nouvelle, qui est ici, paru aux éditions Verdier en 2020, que vous appelez aussi votre livre des morts, puisque dans ce livre, ça raconte l'histoire d'un homme qui, comme vous, quitte Paris pour Berlin après avoir perdu trois des siens, son frère puis ses deux parents, mais un homme dont le corps va s'effondrer, l'obligeant à enquêter sur sa propre histoire. Et puis, de ce texte attaché à l'histoire intime, on abordera ensuite l'histoire plus collective avec ce roman graphique, Le fantôme d'Odessa, également illustré par Alexander Pavlenko et qui est sorti aux éditions De Noël Graphique en 2021, qui se concentre aussi sur un spectre de l'histoire, puisqu'il s'inspire de la figure d'Isaac Babel, donc cet écrivain russe né à la fin du 19e siècle et assassiné pendant les purges staliniennes en 1940. Et enfin, on essaiera dans un troisième temps d'élargir le propos à la philosophie de l'histoire avec Le être et le boulot que j'ai déjà cité, essai sur la tristesse européenne, qui propose donc une relecture de l'histoire européenne à partir de l'événement de la chute du mur de Berlin. Donc trois textes dont on va entendre des lectures et qui vont nous permettre de partir de là, partir du texte pour aborder cette question de la mémoire qui hante, qui passe par la langue, qui passe par le corps, qui passe par la Russie et qui passe par Berlin. Et pour commencer, je vous propose qu'on entende tout de suite un extrait de Thésée, sa vie nouvelle, pour commencer, lu par Sophie.
Thésée est dans le labyrinthe. Thésée tremble entre les corps gisants de celles et ceux qui l'ont précédé. Thésée entend le monstre, au loin, derrière une paroi, qui l'attend, mais il s'obstine à avancer, non par courage, mais parce que son corps ne lui en laisse pas le choix. Il a fait promettre à son frère, il y a des années, de ne pas se tuer, de s'en remettre au temps. Il ne voudrait pas, lui, trahir le temps et ce que l'existence matérielle exige. Patienter jusqu'à témoigner de ce qui en nous se transforme. Traverser la peur des hommes. Et cette foi, cette espérance qu'il met dans la matière, dans ce qu'impose le corps, l'aide à accueillir la douleur. Pourtant, il y a des jours comme celui-ci où il veut renoncer. Il sent le souffle de l'abandon. Quel soulagement ce serait de ne plus rien sentir. Mais quelque chose en lui s'entête. Est-ce la foi, justement, que la matière, c'est Dieu ? Ou une sorte d'intuition que ce qui l'accable ne lui appartient pas, de vieilles âmes tourmentées, et qu'il trouvera le moyen de s'en séparer ? Thésée, pour ne pas fléchir, se force donc à aller marcher. Malgré la douleur, il marche, dans l'espoir de se relever. Et en sortant de chez lui, après avoir longé le parc où, au printemps, les enfants de tout le quartier se retrouvent pour jouer et rire, il tourne à droite pour rejoindre la Kollwitzplatz, où une sculpture l'attend. C'est une figure de mère que ce pays où il croyait trouver refuge vénère. Käthe Kollwitz, femme artiste, qui perdit un enfant pendant la Grande Guerre et se lia aux pacifistes dans une Europe fiévreuse qui cherchait une issue à son déclin dans les voies outrancières de jeunes fascistes. Elle, Käthe Kollwitz, la très vertueuse Käthe Kollwitz, qui, dans les années noires, au milieu de la faillite allemande, au beau milieu de ceux qui, dans ce pays, cherchent et désirent la mort, s'occupa des orphelins. Et aujourd'hui, pendant sa promenade allemande, il entend les cris des vies détruites qui sont ici nombreuses. Les voix des disparus se mêlent à celles des gamins sur les kletter des Gerüste, comme si son corps vibrait à la fréquence du passé. Il enjambe les pavés dorés gravés à la mémoire des disparus qui sont le sol de la ville de l'Est. Mais il se refuse encore à écouter les liens qui se nouent en lui entre les âges. Thésée est un moderne. Il s'obstine à être un moderne. Et il rejette les existences invisibles avec lesquelles il communiait enfant. Il ne voit que l'échec de sa fuite, que les forces qui l'abandonnent et la folie qui guette. Et il descend vers la Prenzlauer Allee où filent les tramways et d'où il aperçoit, derrière la masse décharnée des arbres du Volkspark Friedrichshain, celle qu'il nomme sa Trümmerberg. Sa Trümmerberg, sa montagne de ruines. Alors, lui dit la colline gonflée des débris du siècle, comment vont tes fantômes ? Vas-tu réussir aujourd'hui à marcher jusqu'au sommet ? Et avant d'entamer l'ascension, Thésée s'assoit pour se reposer. Dans ces instants, il cherche des appuis. Un souffle. Il mobilise ses forces en contactant ce qu'il a appris à identifier comme le centre, ce qu'au Japon on nomme Hara, en Inde Svadhisthana, trait d'union entre les énergies célestes et terrestres, point de rencontre des forces de l'esprit et de la matière, sous le nombril, à l'endroit où justement, en lui, tout ploie et se fend. Et en plus de chercher ça, ce centre de l'être dont on lui a vanté la puissance et qu'il ne trouve pas, ou si faible en lui, il implore les bouleaux, les hêtres, les chênes qui le rappellent à l'enfance, aux joies avec le frère au milieu des forêts. Puis il se demande quelle espèce de prière, une prière aux vivants, aux animés et aux inanimés, une prière matérielle, tente de s'élever en lui. Puis il prend conscience, en longeant la fontaine à l'entrée du parc, que les mois ont passé depuis son arrivée à l'Est et qu'il s'y sent toujours aussi étranger. Cette fontaine hivernée est connue ici sous le nom de Märchenbrunnen, là où sont sculptés des personnages des frères Grimm, dont son dernier enfant apprend les contes dans la langue de l'Est. Et il mesure en passant cette étrangeté. Peut-être qu'il s'agit surtout de peur. Une peur qu'il ne peut comprendre, mais que son corps est venu trouver, dénicher comme le monstre au cœur du labyrinthe. L'Allemagne, la langue allemande et ses contes, Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, Schneewittchen du Siebenzwerge. J'ai voulu détruire le français, il pense. Tous les mots dans lesquels j'ai grandi pour ne plus entendre parler de, ne plus entendre parler d'eux, pour renaître dans une autre langue. Mais à quoi Thésée maintenant pourrait-il s'attacher ? Comment pourrais-je me relier à ces sonorités ? Trümmerberg, Märchenbrunnen. Et dans cette ville, Thésée peut-il espérer autre chose que la trace d'une prière disparue et le souvenir d'Ovède ?
Merci Sophie. Alors dans le passage qu'on vient d'entendre, on observe donc Thésée, ce personnage diminué et tremblant qui essaie de progresser à travers la ville de Berlin malgré les souffrances du corps et qui va donc croiser un certain nombre d'autres fantômes, celui de Käthe Kollwitz et de son enfant mort, celui des déportés dont les noms se retrouvent sur les Stolpersteine qui sont au sol et sur lesquels on trébuche, et puis ceux de la colline du Volkspark, puisque cette colline a été, vous l'avez compris, construite sur les gravats de la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce que le corps de Thésée entre en résonance avec ce grand corps de la ville, et qu'est-ce qui entrave précisément sa marche ?
Merci beaucoup Camille, merci pour la lecture, merci à toutes et tous d'être là. Certains d'autres ont préféré le soleil, peut-être qu'ils ont raison. Là, on entre un peu dans les limbes de l'histoire. Oui, le corps de Thésée, qui est vraiment en miroir d'un corps un peu particulier qui est le mien, il porte une certaine forme de blessure, et c'est une blessure qui est dans les parties des dorsales qui sont en lien avec le tronc cérébral. Et en fait, le tronc cérébral, c'est tout ce qui est le plus profond, en fait. C'est le cerveau qui est moteur et qui est en fait un cerveau qui gère le système nerveux. Et donc en fait, chez Thésée, au fil du temps et au fil des traumas et des chocs, notamment la mort du frère, des strates et des strates de peur, de stress majeur, s'agrippe à cette partie-là du corps et dérègle en fait le système nerveux. Et donc il y a quelque chose comme une blessure qui se met en lien avec des vibrations plus profondes. J'étais sensible dans le passage qu'on vient d'entendre à ce motif de la peur. Et avant de venir vous voir, là, je me disais mais que peut-être là, dans le temps qu'on a ensemble, ce serait de creuser ça, cette dimension que Jung appelait l'inconscient collectif. Et comment l'inconscient historique, comment l'inconscient collectif, en fait, s'agrippe à nos corps. Et moi, dans mon travail d'écriture, ça a toujours été un objet particulier, ça, de comprendre qu'est-ce qui est dans l'inconscient, dans l'angle mort de l'histoire. Donc là, dans le récit Thésée, sa vie nouvelle, c'est le corps qui devient le réceptacle, un peu comme un récipient qui vient filtrer et accueillir tous ces traumas des générations successives. Et quand je rencontrais les chamans qui essayaient de me guérir, et toutes ces rencontres que je prête au narrateur de Thésée, sa vie nouvelle, ils m'ont en quelque sorte initié, même si je reste très sceptique à l'égard d'un certain nombre de choses, toujours un peu à distance, mais ils m'ont initié en tout cas à ce qu'ils appelaient ce corps mémoire, qui est en fait un lieu de résonance et d'intrication entre le langage, les traumas et les stress de l'histoire, et des parties du corps qui vont se dérégler ou plus ou moins se fragiliser ou entrer en résonance avec des fragilités généalogiques.
Et on entendait aussi à la fin de l'extrait surgir cette question de la langue. Thésée, en quittant Paris pour Berlin, a cet espoir, on l'entendait un peu fou, de renaître dans une autre langue, comme si l'étrangeté même de cette langue apprise, de cette langue nouvelle, lui permettait de couper avec la langue maternelle, de se défamiliariser avec cette culture aussi. Qu'est-ce que la langue pour vous, et comment est-ce qu'elle pourrait avoir ce pouvoir de couper finalement avec le passé ?
Merci. Bah, vous mentionniez en introduction, et merci de l'avoir fait, effectivement un travail de recherche, de doctorat, enfin ce qu'on appelle une thèse en France, mais il portait sur le vertige, et ça me permet de vous dire un peu comment je comprends le langage. Pour moi, le langage, c'est quelque chose d'assez tellurique et d'assez archaïque, dans le sens où c'est vraiment notre premier système d'attache symbolique au monde. Il y a la première attache qui est un système physiologique, donc c'est le bébé, c'est le nourrisson, et puis après, il y a cette verticalisation avec l'apprentissage de la marche. Et le langage, ça s'ancre, en fait. Et donc, tous les sons qu'on va entendre dans l'enfance, ça va former ce sort d'écosystème avec lequel on se lie aux choses, aux êtres. Et il se trouve que, en fait, j'ai, par l'enfance, assez souvent été recherché des langues manquantes, ou des langues que j'ai entendues dans mon enfance et qui ont cessé d'être parlées après les morts. Et là, c'était en quelque sorte cette confrontation avec l'autre langue, qui était la langue ennemie, qui était cette langue allemande. Et lorsque je suis parti avec mes enfants, c'était vraiment dans un désir d'une pulsion de vie, en fait, c'est-à-dire de changer de lieu, de changer de vie, de renaître. Et en fait, j'ai été confronté à cette langue, et c'est toute cette histoire que je prête aussi au narrateur de Thésée, sa vie nouvelle, en le translatant de cette compréhension qu'il va falloir retrouver la langue française d'une certaine façon, que dans l'exil, il est impossible d'en plus, après la mort des siens, après la mort du frère, après la mort de la mère, après la mort du père, d'ajouter à ces différentes déliaisons, ces différentes ruptures, d'ajouter une énième rupture qui serait la rupture avec la langue de l'enfance, la langue du premier arrimage du corps avec le monde. Et dans le travail plus de recherche, vous savez peut-être pas, mais au XXe siècle, certains nombres d'écrivains ont eu à quitter évidemment leur pays, et c'est d'ailleurs de plus en plus fréquent, hélas. Et donc l'exil fait partie, l'histoire de l'exil fait partie de l'histoire de la littérature désormais. Et il y a un certain George Steiner qui s'est intéressé à des écrivains qui ont réussi à passer dans une autre langue. Alors il parle de Nabokov, ou il parle de Beckett. Nabokov, il a quitté le russe et il s'est mis à écrire en langue anglaise. Et c'était cette maîtrise aristocratique, parce que la famille Nabokov lui parlait également anglais. Donc il a pu faire ça. Mais d'autres, et moi dans mon travail, je m'intéresse plus à celles et ceux qui ont échoué dans ce passage. Et parmi les échecs, il y a Pessoa, par exemple, qui a vécu une partie de son enfance en Afrique du Sud et qui a été arraché et qui, en même temps, a perdu les siens. Il a perdu un frère, une sœur, puis après, il perd sa mère. Et on voit très bien qu'en fait, l'ajout de la perte de la langue à des deuils est l'ajout de trop. C'est ce qu'il ne parvient pas à faire. Je pense à un autre, un écrivain que j'aime beaucoup, que vous connaissez, qui est Sebald. Et Sebald est cet écrivain allemand qui a enseigné toute sa vie en Angleterre. Et en fait, il aurait très bien pu écrire en anglais. Mais c'est comme s'il était retombé dans sa langue maternelle parce qu'il se renoue avec un système d'attache plus primordial qu'est la langue. Donc moi, j'ai une conception du langage qui est très physiologique. C'est vraiment notre mode. C'est comme un sol, en fait. Et si on vous enlève le sol, quelque chose se met à trembler et s'effondre, en fait, ne tient plus au monde. Donc l'histoire de Thésée, c'est aussi l'histoire de retrouvailles avec la langue française.
Oui, d'ailleurs, c'est peut-être pas anodin que ce passage qui a été lu suive une marche, une tentative de marche de se rééquilibrer dans le monde. Là, c'est encore le lien entre la langue et la marche, voilà, une façon de s'attacher au monde et de se tenir debout aussi.
Oui, d'ailleurs, dans cette marche, il y a un autre l'appui premier qui m'intéresse beaucoup et qui nous cause beaucoup de soucis collectivement aujourd'hui, qui est dans cette marche, il y a la présence des arbres du Volkspark, de cette masse de verdure, et Thésée essaye de se rattacher également à ces forces de vie-là. Lorsque de l'intérieur quelque chose le quitte, il y a d'une part cette attache à la langue qu'il retrouve, et cette compréhension que la langue allemande ne pourra pas remplacer, en fait, elle n'est trace en lui que d'une histoire de la violence, et c'est sans doute que dans la génération d'après, la génération des enfants de Thésée, qui eux grandissent dans cette langue allemande et qui, elle, va alors créer des dépôts et laisser des traces en eux qui sont des traces de joie, qui sont des traces de l'enfance. Mais lui comprend que voilà, il faut en passer par ce retour à la langue française et également ce réattachement au monde et aux arbres notamment et à ce monde de la nature comme on le malnomme bien souvent.
Quelques pages plus loin dans Thésée sa vie nouvelle, vous parlez aussi du foyer sonore de la langue. C'est très beau cette idée d'un foyer sonore voilà, dont Thésée serait coupé avec ce premier renoncement au français et puis la disparition du nom des siens après leur mort. Et dans cette fuite vers Berlin, il s'agit aussi, c'est ce que vous écrivez, de gagner un pays où nul ne connaît son nom. Cette question du nom, il me semble qu'elle est importante parce qu'elle traverse à la fois tout ce livre et puis peut-être toute votre œuvre, vous qui avez choisi d'ailleurs de changer de nom pour écrire. Qu'est-ce que c'est un nom pour vous ?
En tout cas, ce que je peux vous dire déjà ce que ça n'est pas, parce que dans l'écriture, très souvent, le changement de nom est traité un peu comme cette cosmétique des pseudonymes. Et en fait, un changement de nom... c'est très profond là, ce que ça entame. Je vais vous raconter une petite histoire. Donc moi, effectivement, j'ai repris le nom de ma grand-mère pour écrire, qui est le nom de Toledo, qui est un nom plus ou moins enfin, juif d'Espagne et marane, enfin, avec une histoire assez longue. Et puis Camille, qui est le nom d'un suicidé dans ma lignée. Donc, par ailleurs, j'ai fait rentrer dans mon corps un certain nombre de fantômes, et notamment le corps d'un suicidé qui était caché. Mais changer de nom, en fait, c'est tout sauf une cosmétique. Et ça atteint vraiment des choses très très profondes et des fondations très très fortes. Et notamment le fait que lorsque celles et ceux qui m'ont porté dans l'enfance et qui m'appelaient Alexis, mon père, ma mère, mon frère, ont disparu, soudain en fait ce nom n'était plus en quelque sorte attaché à rien. Enfin, le nom choisi, c'est comme s'il fallait que je fasse revenir, pour faire revenir le frère et le souvenir du frère, il fallait que j'accepte que repousse en moi cet enfant qu'on avait nommé Alexis. Donc il y avait plus qu'un dédoublement, il y avait un vrai vertige, un profond vertige des noms et du nom. Et donc ça, c'est vrai que ça traverse beaucoup, beaucoup c'était également dans Vie potentielle, cette intrication, cet entre-là. Par exemple, une des questions pour moi littéraires, un livre auquel je reviens souvent, qui est un livre de joie et en même temps qui est adossé à une très grande gravité, qui est le Quichotte de Cervantes. Mais il y a une question sur le Quichotte. Vous savez, Quichotte, c'est pas son vrai nom. Il se renomme en Quichotte, il s'appelle Quixada au départ. Mais c'est un homme un peu ordinaire de la Mancha, de la région de la Mancha, et il se renomme. Et une de mes questions, ça a toujours été, quand Don Quichotte meurt, est-ce que c'est Don Quichotte, c'est-à-dire la créature qu'il a créée, fictionnelle, ou est-ce que c'est Quixada qui meurt? Et pour nous autres qui le lisons, est-ce que c'est l'un ou l'autre, ou est-ce que c'est l'entrelac des deux? Et si c'est l'entrelac des deux, quel est le rapport entre la fiction créée qui a produit des effets de réel? Et je crois que l'histoire du changement de nom a produit des effets sur ma vie qui sont qui sont à l'échelle d'une vie assez incommensurable. C'est-à-dire que j'ai mobilisé une histoire longue du judaïsme, j'ai rappelé les morts d'une lignée un peu cachée, j'ai rappelé le nom d'un suicidé qui était également caché. Mon frère, après, j'ai pris ce nom-là avant de savoir qu'il allait se donner la mort, évidemment. Et donc, en fait, lorsqu'il s'est donné la mort, il y avait un écho. Donc, il y avait toute cette infinité de signifiants que j'avais simplement fait rentrer dans ma vie par le changement de nom. Et donc, je trouve qu'il ne faut pas du tout traiter cette affaire à la légère. Et puis, je crois aussi qu'en fait, le nom, moi, je reste dans une ambivalence, dans un trouble de l'identité. Ça me va très bien aujourd'hui. Pendant un temps, c'était plus dur. Mais le fait d'arrêter de traiter ça comme une cosmétique, c'est rentrer dans des profondeurs précisément du rapport entre le mot et les choses. C'est lorsque ça tremble, lorsque ce rapport-là est entamé, il y a quelque chose qui, je dis vertiginise parfois, qui devient vertigineux. Voilà, donc c'est vrai que c'est une grande question, mais qui rejoue en fait par le nom ce qu'on disait tout à l'heure sur le langage. Notre foyer sonore, comme vous le disiez, c'est la première chose qui se met à trembler lorsque le langage est déplacé, ou lorsque l'on change de langue, ou lorsque l'on a changé de pays. Et Et ça, ça crée, ça fait rentrer quelque chose qui, pour moi, puisqu'on est là aussi pour parler de la, de philosophie, enfin, de, des fantômes de l'histoire, c'est qu'en fait, le, lorsqu'il y a tout d'un coup un écart, un tremblement entre les noms et les choses, ça fait rentrer dans cette dimension de la fragilité de l'histoire, de, des tremblements, et c'est dans ce petit écart que s'invite un certain nombre de fantômes.
Voilà. Et ce qui montre bien que ça va très au-delà de la cosmétique chez vous, c'est qu'on vous appelle aussi Camille de Toledo dans la vie de tous les jours. C'est pas voilà, ouais, une façon c'est... d'endosser le par-dessus de l'écrivain, voilà, simplement.
J'ai les deux noms sur ma carte d'identité, ce qui me vaut parfois des regards un peu bizarres des douaniers aux frontières.
J'imagine. Pour en terminer avec cette question de la langue, en terminer non, mais en tout cas y revenir peut-être encore une fois, il se trouve que celle que vous employez pour écrire Thésée sa vie nouvelle, je crois qu'on l'entendait dans l'extrait tout à l'heure, c'est une langue qui peut-être plus encore que dans vos précédents livres prend une résonance de prière, presque d'incantation, qui rompt en tout cas avec le quotidien, vraiment, avec beaucoup d'échos, avec des phrases qui se répètent, avec une disposition aussi sur la page à certains moments qui est particulière. De quoi est-ce qu'elle résonne justement cette langue du livre?
Ah, je ne sais pas tellement comment vous répondre. En tout cas, le terme de prière me touche parce que ça a été beaucoup ça, c'est vrai. Hein, lorsqu'on a beaucoup de deuil et de mort, tout d'un coup, la question de l'écriture devient plus intensément une question d'adresse. Quand j'avais 25 ans, 26 ans, que j'étais en pleine possession de mes moyens, disons, physiques, et que j'entrais en écriture, en fait, très vite, la question du roman ou de l'écriture était d'abord une question d'une histoire à raconter, de la façon, de la forme à trouver pour la raconter, mais l'adresse était peut-être plus flottante, comme on pourrait dire, tiens, je vais écrire un scénario et ce sera telle histoire. Et puis, en fait, avec les deuils, les morts, il y a quelque chose comme une question une question d'adresse. En hébreu, c'est la même racine trilitaire, c'est kotev, ani kotev, j'écris, et haktovet, c'est l'adresse. Écrire, c'est adresser. Et c'est la littérature, et je trouve prise dans cette chose complexe, c'est une opération assez complexe, parce que plus on va en âge, plus on adresse des lettres aux morts, je pense à la lettre au père de Kafka ou d'autres, mais quand on adresse des lettres, ou à des lecteurs à venir, comme une adresse d'un livre à ses enfants, très souvent il y a une fermeture sur une personne ou sur il s'agit dans l'écriture de ne pas perdre l'intensité de cette adresse précise et en même temps de laisser l'impersonnel suffisamment ouvert pour que chacun puisse s'y engouffrer. En fait, c'est ce qu'on appelle ce fameux singulier universel. Je ne sais pas si on y arrive toujours, mais en tout cas maintenant c'est vrai que l'adresse est devenue une question fondamentale pour moi. Et dans l'écriture de Thésée, c'était non seulement une adresse au frère, « Dis-moi, mon frère, qui commet le meurtre d'un homme qui se tue », ce sont les premières lignes, c'est vraiment une adresse au frère. C'est progressivement dans le livre une adresse polyphonique à la mère, au père, puis aux enfants aussi. On voit cette volonté de nettoyer les eaux noires du temps, comme il est écrit. Donc, ce désir de filtrer en quelque sorte les violences de l'histoire pour laisser une vie plus limpide aux êtres qui suivront. Mais il s'agit en permanence d'accomplir cette précision de l'adresse tout en étant, tout en impersonnalisant le récit. Pour atteindre à l'histoire avec sa grande hache, comme disait.
C'est de ça que procède aussi l'alternance dans la narration entre le « je » et le « il ». Je ne sais pas si vous l'avez bien entendu dans l'extrait tout à l'heure, mais il y avait un glissement au sein même d'une phrase. Je crois que c'est « à quoi Thésée pourrait-il s'attacher ? À quoi pourrais-je m'attacher ?» Donc parfois, voilà, on glisse au sein même de la phrase, de ce « je » qui est très personnel, à ce « il » qui remet au commun. Donc il y a une manière de relier l'histoire intime à une histoire plus collective, une histoire collective qui vous intéresse tout autant, puisque vous y avez beaucoup travaillé, entre autres en ressuscitant des mondes disparus et des vies oubliées. Je voudrais qu'on en vienne maintenant justement à un texte qui est particulièrement adressé, vous parliez d'adresse tout à l'heure, qui est Le fantôme d'Odessa. Donc ce roman graphique qui est ici, ou qui s'attache à la figure d'Isaac Babel, écrivain russe, donc je le disais tout à l'heure, qui était assez réputé de son vivant, mais qui va être fusillé dans les prisons de la Loubianka. Et dans ce livre, vous imaginez la lettre que cet homme parviendrait à écrire à sa fille Nathalie, juste avant de mourir, de s'accuser de crimes qu'il n'a pas commis, en fait, et d'être fusillé. Et je vous propose qu'on entende un extrait de cette lettre.
Nathalie, ma petite fille. Hier, elles sont venues. Tu aurais dû voir au moment où ils m'ont arrêtée. Quelle bêtise. Quelle bêtise a poussé dans ce pays. Mais depuis le temps que je vis en sursis, je m'y étais préparée. Sais-tu de quoi ils m'accusent ? J'aurais trahi pour la France. Mais qu'ai-je dit à part répéter ce qui est dans le journal ? La révolution est une grande boucherie. Et tu vois, je me dis que si je suis coupable, c'est de mon silence. J'aurais dû trouver un moyen de raconter ce que j'ai vu. Au lieu de ça, j'ai cherché à survivre. Pendant leurs interrogatoires, il faut tout nier. Mais à quoi bon, puisqu'ils ont décidé qu'on est coupable ? Tu sais, ce sera ma dernière ruse. J'ai utilisé le papier qu'ils m'ont donné pour t'écrire. Et d'ailleurs, si je dois des aveux, c'est à toi. À toi seule, Natashenka. On n'est pas écrivain sans peine, Nathalie. Et sans doute qu'il faut un peu souffrir. Qu'il faut un peu souffrir pour sortir quelque chose de bon. Il faut voir les coups qu'on donne et aussi en recevoir. Comme ça, quand le corps est bien battu, on découvre ce qu'il y a derrière la peau. Tu vois, ma fille, depuis que je suis là, dans ce trou, je me demande quelle réalité il croit bâtir en supprimant les témoins de la réalité. J'aimerais tant leur poser la question. Seulement, à la fin, c'est une balle dans la tête. Je sais que ça se termine comme ça. Un garde te raccompagne en te disant « Nous avons besoin de la vérité pour le peuple, pour le socialisme. » Et à peine tu as le temps de parcourir quelques mètres, le pouvoir fait sa besogne et il la fait toujours par derrière. Et puis, je vais te dire aussi, je ne fais pas de sermons. Les sermons, je les laisse aux fonctionnaires de la Révolution. Je dois être un peu à l'image de Benia Krik, qui a enfoui son cœur au point qu'il ne le retrouve plus qu'en chantant. Les sermons, Nathalie, je n'y arrive pas. Si un écrivain a une conscience, qu'il la garde, qu'il s'occupe de nous raconter quelque chose, et si ça saigne, eh bien que ça saigne. Nous, nous consignons un peu de la monstruosité de l'histoire. En Galicie, pendant la guerre civile et plus tard dans les campagnes, j'ai vu tout un tas d'horreurs. Si je n'avais pas envie de vivre pour finir mes livres et venir te voir, je te dirais que l'âme de ton père, il faut l'achever. Elle déborde. J'ai cru bien faire en regardant l'âme jusqu'où elle tousse et à quoi elle ressemble quand elle a une arme à la main. Et aussi ce pâle amour et la colère, la haine qu'il y a sous la peau des hommes. Après tout, est-ce que je n'ai pas mis ces phrases il y a longtemps dans la bouche d'un de ceux qui nous tuent ? Quand on tire sur quelqu'un, je dirais ça comme ça, on peut juste s'en débarrasser, lui tirer dessus. Pour lui, c'est une grâce, et pour nous, c'est répugnant de facilité. Quand on tire, on n'arrive pas jusqu'à l'âme, là où elle est, à l'intérieur de l'homme, et de quoi elle a l'air. Mais moi, ça m'arrive de ne pas me ménager. Ça m'arrive de tabasser un ennemi pendant une heure, ou plus d'une heure. Ce que je veux, c'est savoir ce que c'est, la vie, comment elle est vraiment. Je n'ai rien à ajouter. Et je me demande ce qu'ils diront après ma mort. Mais pardonne-moi, je regrette tellement de te parler de tout ça. Seulement, si je te dis qui j'ai été, ce que j'ai fait, plus tard, quand ils te mentiront, tu pourras te boucher les oreilles. Ne les écoute pas, je te dis. Ils ne savent rien. Ils ont organisé l'ignorance. Ils ont fait disparaître les témoins. Dans l'avenir, promets-moi, n'écoute que la voix qui est là, dans cette lettre, car elle est reliée à un père qui t'aime. Et je ne te dirai pas que je pleure, Nathalie, parce que ce n'est pas bien pour un père de dire ces choses-là. Mais c'est vrai, j'ai vu ça sur le front pendant la guerre. Quand un type voit le bout arriver, il s'agenouille. Parce que la mort, ma fille, ça rappelle que la vie est triste. Et tu vois, je voulais écrire la Révolution. Je voulais faire avec l'écriture ce que Goya a fait avec Napoléon. Peindre pour voir au-delà de ce qui peut être vu, pour donner à sentir ce qui broie la vie. J'ai voulu saisir la grimace du blessé qui implore, le rire gras d'un soldat, les yeux las d'un enfant resté sur un talus, le ventre ouvert. J'ai voulu tout saisir, sans rien juger. Parce que je sais que le juge, à la fin, ça ne peut être ni moi, ni toi, ni Staline. Qui est-on pour juger ? Et donc, je ne pouvais plus écrire. On ne peut pas écrire si on sent qu'il y a quelqu'un qui regarde par-dessus notre épaule. Mais crois-moi, tout était là, dans les cartons qu'ils ont confisqués. Et qui sait si ces cartons, un jour, ressortiront. Dans la République des Soviets, figure-toi, le tsar n'est pas mort. Il a changé de visage. Et maintenant, il se prend pour l'histoire. Staline est le propriétaire des usines, des champs, de tout l'art que la Russie arrive à produire. Nos textes lui appartiennent, les poèmes lui sont dédiés. Et ce qui semble lui échapper, que crois-tu qu'il en fasse ? Il ordonne que ce soit dépecé comme la volaille. Cette nuit, j'ai creusé une cachette dans le mur pour ma lettre. À l'instant, je me dis que c'est notre destin. À la fin, nous mettons tous des lettres dans les murs. Nous cachons des espoirs et des pleurs dans des trous en attendant des jours meilleurs. Ici, le bruit circule que Staline, le patron, a serré la main de Hitler. Ça, ma fille, c'est le signe que tout est sans dessus-dessous. Il n'y a plus de révolution. Peut-être même qu'il n'y en a jamais eu. On dit qu'il y a une différence entre les bêtes et nous. Il y en a une. Et je te dis laquelle. Les bêtes sont humaines et les humains sont des animaux. C'est une lettre pour plus tard, ma petite fille. Une lettre pour quand tu voudras comprendre quelque chose à ce grand désordre de l'histoire. De toute façon, cette époque n'a plus besoin de nous. Le patron veut nous effacer et nous, nous ne pouvons pas vivre dans son idéologie. Nos nerfs ne nous le permettent pas. Voilà, tu sais presque tout, Natashenka. Je ne peux t'écrire des romans parce que le temps passe et ils ont rendu leur verdict. Nous sommes le 26 janvier 1940 et il fait si froid. Et moi, je me demande, est-ce qu'il se peut que le poète, comme le chien, devine son avenir ? Que nous ayons enfin un peu de paix. C'est le souhait que je t'adresse, ma petite fille adorée. Et là où je serai, souviens-toi qu'il y a un idiot, ton père, qui pense à toi. I.B.
Merci Sophie pour cette très belle lecture. Dans ce roman graphique, Camille de Toledo, il se trouve que vous vous mettez à la place du mort, vous écrivez du point de vue d'Isaac Babel, du point de vue de ce fantôme, de ce disparu de l'histoire. À quoi est-ce que ça sert de rappeler le fantôme et plus encore de se mettre à sa place ?
C'était étonnant, merci pour la lecture. C'était étonnant en l'écoutant parce que j'avais conscience, j'y travaillais à 2 ans, un an. Puis en travaillant, j'avais évidemment conscience que Babel s'adressait pas seulement à Staline mais à Poutine. Que faire revivre en fait le fantôme de Babel aujourd'hui, c'était évidemment rappeler toutes les transfigurations et les métamorphoses et les défigurations de l'histoire qui sont pratiquées quotidiennement en Russie, depuis notamment la chute du mur de Berlin. Alors après, cette focale depuis le mort, d'abord ça a été... j'ai une certaine... j'arrive assez bien, depuis quelque temps, à me mettre à la place du mort. J'ai une certaine pratique. J'utilise des outils un peu singuliers, je vous en parlerai peut-être si ça vous intéresse. Mais se mettre dans cette condition-là, se mettre à sa place, là, c'était aussi se déplacer dans un corps autre, être en 1940 dans la peau d'Isaac Babel, s'adressant à sa fille qui vit à Paris, sachant, il sait qu'il va mourir. Et donc j'ai demandé l'aide à sa traductrice. La traductrice d'Isaac Babel vers le français qui s'appelle Sophie Benesch. Et donc plus j'avançais dans les versions de cette lettre à sa fille, plus je lui soumettais et plus on biffait, on raturait, on reprenait jusqu'à ce que ce soit juste, jusqu'à ce que ce soit quelque chose qu'il aurait vraiment pu écrire. Et notamment en 1940, on entend dans la lettre là une de mes questions, c'est de savoir est-ce qu'il pouvait être au courant, alors qu'il avait été enfermé un peu avant, du pacte germano-soviétique. C'était pas sûr que ça puisse rentrer dans les couloirs de la Loubianka. Et puis, en travaillant, en questionnant aussi un historien, Nicolas Werth, on s'est rendu compte que peut-être, en fait, si, parce qu'en fait, les prisons, c'était des lieux où quand même beaucoup, beaucoup de choses circulaient. Et donc, pour chaque détail qu'il mentionne, chaque chose, il fallait toujours se demander est-ce qu'il aurait pu. Une manière de se mettre dans se mettre dans sa peau, et le faire revivre son fantôme, c'est ramener une voix de juste dans cette Russie contemporaine et dans la Russie des transfigurations et des métamorphoses de l'histoire. Et on entend sur les... Est-ce qu'on modifie la réalité en supprimant les témoins de la réalité? Aujourd'hui, on est tellement dans ce monde-là. Et faut savoir que Isaac Babel est un fantôme. Le pouvoir russe ne le voulait plus parce que c'était vraiment cet œil du témoin, avec un œil parfois d'une cruauté, mais d'une précision. Donc je voulais vraiment retrouver ça et reconvoquer ça. Mais à travers son histoire, surtout ce que vous entendez toujours, c'est je le fais avec Herzl et d'autres, je le fais avec Thésée, c'est toujours cette attention particulière aux angles oubliés. L'histoire avance en fait par des grands récits et par une histoire de la force. On dit toujours que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire et qu'elle est rarement écrite par les vaincus. Je crois d'une certaine façon l'inverse. Je crois qu'en fait il y a une prégnance, une présence. Moi j'ai toujours eu depuis que je suis enfant en fait, une manière de regarder, parce que j'avais dans ma famille des gens qui parlaient fort et des gens qui maniaient un certain pouvoir justement et qui nous racontaient des histoires, et moi je parlais pas beaucoup. En plus, j'étais un peu dyslexique au début. Et donc, j'ai dû un peu forcer pour rentrer un peu dans le langage et le maîtriser. Et en bout de table, j'étais plus le dernier, donc c'était pas celui qui était appelé à parler. Et je regardais ces hommes, c'était des hommes, qui racontaient leur histoire avec force, leur force de caractère. Parfois, d'ailleurs, c'était un peu vulgaire. Et ça m'allait pas. Enfin, je trouvais qu'il y avait une dissonance, en fait. Ça sonnait faux, en fait. Donc j'avais une sorte de soupçon sur le fait que c'était pas ça. Et donc je regardais dans les angles morts, je regardais les silencieuses, par exemple, je regardais les femmes. Je regardais les visages des femmes pendant que les hommes parlaient. Je me souviens de ça à table. Et leur visage disait beaucoup de la contre-histoire, de ces manipulations, de l'histoire de la force, quoi. De tous les oublis, de... Et puis, après, en grandissant, j'ai fait des études aussi un peu de philosophie, et je suis tombé sur ce texte très émouvant d'un philosophe judéo-allemand, qui est mort à la frontière des Pyrénées, qui s'appelait Walter Benjamin. Et il a un très joli commentaire d'une toile qui était en sa possession, qui est une toile de Paul Klee, C'est une petite toile, et on voit, il appelle ça l'ange de l'histoire. Mais il explique pourquoi l'ange de l'histoire regarde en biais. Et c'est un peu ce que je viens de vous décrire, c'est cette manière de regarder à côté de ce qui nous est raconté. Pas pour aller chercher des formes de cohérence ou justement de récits de complot, ce qui est encore une autre manière de rappeler le pouvoir, parce que toute forme de cohérence oublie la fragilité, l'impossible cohérence justement du réel. Mais moi, ce que je vais voir, c'est ça, c'est des voix un peu plus mineures. Et Isaac Babel, c'est une voix mineure, et qui en plus là est encore plus minorée, parce que, comme vous l'avez dit, Isaac Babel, autant de sa splendeur, c'est un maître, il est lu partout dans le monde, en fait. Et là, tout d'un coup, dans les derniers instants de sa vie, je me disais, mais à qui il a envie de s'adresser ? Évidemment, il s'adresse à cet enfant qui ne connaîtra pas son père. Et tout d'un coup, vous voyez ce que je disais dans la première intervention sur la manière dont l'adresse, tout d'un coup, se resserre vers quelque chose qui est juste le seul essentiel, qui est de laisser un texte pour l'avenir, de glisser ça dans un mur pour que peut-être cet enfant puisse avoir accès à ce texte qui lui élucidera quelque chose, qui fera revenir le... Et elle a dit elle-même d'ailleurs que sa fille, elle a dit elle-même qu'elle avait attendu son père. On lui a menti sur l'année de sa mort, on lui a menti sur le fait qu'il était mort, on lui racontait qu'il était encore en vie. Et donc elle a vécu avec l'idée que son père allait arriver un jour ou l'autre, quoi, pendant des années. Qu'est-ce que c'est de grandir avec ce récit-là, avec une vie qui n'est plus et qui pourtant est encore officiellement là? Et je crois que ça dit beaucoup de notre état, ça dit beaucoup d'abord du XXe siècle. Moi, je m'intéresse à ça, je m'intéresse aux traces, là, dans cet axe-là, je m'intéresse aux traces que laisse le XXe siècle sur la vie contemporaine. Et comment le XXe siècle continue à produire des effets, y compris pour l'avenir. Et le XXe siècle, c'est un monstre de destruction. Et donc, où sont passés tous ces noms qui ont été détruits, disparus? Et je crois qu'en fait, ils persistent. Il y a quelque chose qui s'écrit en leur nom. Enfin, moi, j'écris beaucoup en leur nom, en fait. Vous parliez des Stolperstein à Berlin. C'est à chaque Stolperstein, dès qu'on se promène dans Berlin, on a envie de s'arrêter et de s'arrêter sur ces noms et de savoir ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils auraient pu devenir. Ça, c'est la part de l'imaginaire qui vient s'adosser à la violence de l'histoire. C'est lui donner, en fait, lorsqu'on fait rentrer la fiction dans ce qui a disparu, c'est comme si on cherchait à écrire une histoire de l'avenir au nom de ce qui a été fragilisé ou tué ou omis ou disparu. Ça, c'est, je crois, un des principaux ressorts de l'écriture chez moi, notamment avec mon frère. Mais...
Oui, en tout cas, vous vous rappelez un peu dans ce livre qui a pu être Isaac Babel, qu'on a en effet un petit peu oublié. Vous parliez tout à l'heure de sa traductrice, Sophie Bénèche. Je signale juste pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce roman graphique qu'à la fin du livre, il y a des annexes documentaires dans lesquelles on peut trouver un très long entretien entre vous, Alexander Pavlenko, qui est l'illustrateur, et Sophie Bénèche. Et c'est un entretien très très passionnant qui révèle un peu aussi les coulisses de la construction de ce livre et de quoi il se nourrit, où il est question aussi de l'association mémoriale. Vous disiez tout à l'heure à quel point ce texte résonne évidemment très fort aujourd'hui avec la situation en Ukraine et voilà cette confiscation des archives contre laquelle cette association mémoriale a essayé de lutter, puisque c'est une association qui travaille sur la mémoire des victimes des répressions politiques, mais qui a été dissolue là en décembre dernier. Donc voilà, ça dit bien aussi cette manipulation de la mémoire qui est à nouveau et encore et toujours à l'œuvre aujourd'hui. Mais je voudrais qu'on parle un petit peu de l'image, des images dans votre œuvre. Vous avez parlé tout à l'heure de ce tableau de Paul Klee, l'ange de l'histoire, dont Walter Benjamin a beaucoup parlé. Les images, elles sont évidemment très présentes dans votre travail. Dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure de Thésée, sa vie nouvelle, ça ne s'entendait pas, mais il y avait en fait inséré dans le texte deux images. Une du Volkspark et une de Käthe Kollwitz, donc cette sculptrice. Et puis il y a plein d'autres images dans ce texte, des photographies de famille, des archives, des documents plus scientifiques aussi, des radiographies notamment. Et dans Le fantôme d'Odessa, qui est tout entier un texte d'images évidemment, il y a aussi dans les annexes documentaires des photographies dont vous êtes partie. et une photographie en particulier d'Isaac Babel et sa petite fille qui a inspiré le début du livre. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler justement de ces images, de ce qu'elles apportent à votre travail sur la mémoire, sur les fantômes de l'histoire ?
Ah oui, oui, je peux. L'image à laquelle vous faites référence, c'est une image, donc on est en 1900, je parle de mémoire, mais c'est une image de 1933. Isaac Babel donc vit à Moscou et il fait quelques voyages à Paris, de mémoire là encore trois. Il vient notamment pour voir sa femme et sa fille qui se sont exilées, qui ont quitté la Russie à cause des répressions notamment. Et donc il y a cette photo où il regarde amour, enfin c'est un regard de père pour sa fille, d'adoration. Et Isaac Babel est une sorte d'écrivain magique, d'un peintre de la cruauté de l'histoire, notamment dans Cavalerie Rouge, mais c'est quelqu'un qui est dans toutes ses descriptions, dans toute la manière qu'il a d'écrire la violence, dit la bonté de ce qu'il est. Enfin, je ne sais pas comment dire autrement que c'était un homme bon. Et il regarde sa fille avec cette bonté, avec une certaine forme d'étonnement, de surprise, de fierté. Et sa fille, qui ne le connaît pas, qui ne connaît pas cet homme, parce que bon, il vit à Moscou, elle ne l'a pas vu depuis sa naissance, regarde l'objectif. Et il se passe tellement de choses dans cette photographie. Et elle regarde l'objectif, et on sait évidemment que derrière l'objectif, c'est sa mère. Donc elle cherche à se rassurer. Enfin, il y a quelque chose d'une complicité qui passe à travers l'objectif, qui est, et une question de l'enfant vers sa mère qui est, mais c'est qui en fait celui-là, là, ce gars qui me regarde. Enfin, avec une timidité, c'est très très beau. Et donc dans cette image, bon voilà, il me suffit moi de la regarder pour me demander ce qu'ils ont envie de se dire en fait. Et après les photographies, j'ai parfois moi du mal à les regarder. Hein. Le passé est quelque chose qui, c'est une gorgone en fait. Hein. On est à Beaubourg, donc vous devez sans doute pour certains avoir lu La Chambre claire de Roland Barthes. C'est un lieu où on est cultivé à Beaubourg normalement. Et dans La Chambre claire, Roland Barthes, qui est donc sémiologue, philosophe, et voilà, qui a beaucoup écrit sur la littérature et donc sur la photographie, et c'est un très joli livre. Je vous conseille si vous l'avez pas lu. Et il parle notamment d'une photo de sa mère et des photos de sa mère. Bon, il parle de toute la théorie qu'il a sur la photographie, le punctum, le studium, enfin tout un tas de choses. Mais en fait, je trouve que le plus intéressant dans le livre, c'est le moment où il parle de ce à quoi le livre se rattache, c'est-à-dire la mort de sa mère et sa disparition comme corps, comme incarnation, et comment il la recherche à travers les photographies. Et il dit des choses sur la photographie qui sont sombres, qui sont le fait qu'une photographie, c'est de la mort. À partir du moment où les gens qui sont sur l'image n'y sont plus, c'est des fantômes. C'est une présence des fantômes dans nos vies, en fait. Bon, maintenant, vous avez vu, en plus, on leur donne de la couleur. Parfois, il y a des filtres qui leur remettent de l'action, du mouvement. Donc, on est très spectral dans nos rapports à l'image. L'image est devenue, dans sa grande conquête du monde, l'image est devenue une productrice massive de fantômes et de fantômes qu'on cherche par tous les moyens à réanimer. Et alors là, à l'époque de Barthes, bon, on n'avait pas encore tous ces outils, mais il parle de la photographie comme ça, comme une instance du visage des morts. Et il dit cette chose très juste, c'est qu'il dit à un moment, il y a une photographie en particulier qui lui redonne sa mère en vie. Et il peine à expliquer ce qui se passe. Mais il dit, il y a certaines images qui tout d'un coup réveillent quelque chose en nous. En fait, je crois exactement de la même manière que Proust raconte ça dans La Recherche du Temps Perdu, quand il dit qu'il trébuche sur un pavé mal équarri ou avec la fameuse Madeleine. C'est que tout d'un coup, le souvenir et la mémoire prend une intensité de vie en soi qui nous ramène et qui nous sort de cette contemplation macabre des fantômes. Et en fait, dans Thésée, je l'ai fait. Mais je pense qu'en fait, j'avais même à un moment donné presque théorisé cette idée que le moment de l'écriture que nous avons à connaître, c'est-à-dire moi je suis né en 1975, et nous vivons parmi les images. Et que la place de l'écriture aujourd'hui est un coda, c'est une marge. Que notre écriture, l'écriture aujourd'hui est une légende. Nous écrivons des légendes, des images qui, elles, racontent l'histoire. J'avais un photographe, moi, dans ma famille, qui était un photographe de Magnum, qui a été sur tous les terrains de guerre, sur tous les terrains des révolutions, des décolonisations des années 60, 70, de la Chine, du Vietnam et autres. Et ces photographies faisaient partie de mon enfance. On les voyait toujours, c'était les photographies de marque, les photographies de marque. Et il est revenu de tel endroit, il est revenu de tel endroit. Et je les ai encore dans, chez moi. Et je crois que j'ai grandi avec cette idée que si on est du côté de l'écriture textuelle, notre charge, c'est d'écrire des légendes. Avec cette chose qui m'avait intéressé à un moment donné dans un cycle, de comprendre la signification de ce mot légende. Parce qu'il est évidemment chargé d'une ambivalence très, très fructueuse, puisqu'il est à la fois la légende, ça dit à la fois ce qui atteste la réalité de cette image et ce qui prend ses distances avec le légendaire. Donc Thésée, sa vie nouvelle, c'est la légende et ce que j'ai demandé comme autorisation aux morts dans les photographies pour écrire la légende. Sans cesse, je leur demandais est-ce que vous m'autorisez là à faire ce que je suis en train de faire, parce que l'écriture, ça produit des opérations entre des morts et des vivants. C'est ça que fait, pour moi, la littérature. Et donc, en permanence, on ne demande pas l'autorisation à nos enfants, mais par contre, on doit demander l'autorisation aux morts sur les opérations qu'on accomplit. Et c'est ce que j'ai sans cesse fait dans Le Être et le Boulot, le livre sur la tristesse européenne. C'est uniquement presque une variation autour de l'image qui est maintenant sur la couverture, mais je crois qu'on va en parler.
Je voulais vous montrer la fameuse image d'Isaac Babel et sa petite fille, mais voilà, c'est une trop petite vignette, donc vous verrez rien, mais Camille de Toledo l'a très bien décrite, cette photographie, donc je pense que c'est aussi bien, cette façon de légender l'image en l'absence de l'image. Il se passe, oui, cette idée peut-être que c'est comme si l'image savait, voilà, quelque chose qu'on ne sait pas.
C'est vrai, je trouve qu'il y a la fonction prophétique dans nos sociétés, enfin, a été reprise par des idiots, très souvent, qui parlent à la télévision, qui nous annoncent l'avenir et qui ne comprennent pas grand-chose, mais par contre, la fonction prophétique, c'est une fonction archétypale des sociétés, c'est une fonction très importante dans les sociétés autres que les sociétés modernes. Et puis ça a décliné la fonction prophétique. Mais je trouve que les images, en fait, occupent cette fonction prophétique parce que j'ai fait souvent l'expérience et je l'ai partagée. En fait, très souvent, des gens sont venus vers moi pour me dire qu'ils avaient cette même expérience de l'image, qu'une image, avec le temps, révèle un certain nombre de choses. C'est comme si, au moment où elle avait été prise et à l'instant T où elle a été prise, elle ne disait pas tout et que dans le déploiement d'une vie, on y voit quelque chose, on se met à regarder l'image autrement et tout d'un coup, c'est l'image qui nous apporte un savoir. Un peu comme dans La Jetée de Chris Marker, où c'est l'image de début qui montre la fin. Il y a quelque chose d'une fonction et d'une capacité prophétique des images qui me frappe toujours.
Alors, je voudrais qu'on parle en effet maintenant de ce dernier texte, Le Être et le Boulot, tristesse, et c'est sur la tristesse européenne. On entendait dans l'extrait de la lettre d'Isaac Babel cette idée que le rôle de l'écrivain, ça n'est pas de distribuer des sermons, ça n'est pas de juger, mais plutôt de raconter des histoires, de comprendre. Et c'est ce que vous avez essayé de faire dans ce texte, Le Être et le Boulot, en essayant de comprendre précisément pourquoi l'événement de la chute du mur a scellé notre rapport à l'histoire et notre rapport au monde, et en quoi cet événement était déjà porteur d'une certaine tristesse qui s'est ensuite déployée jusqu'à paralyser l'Europe. Et donc on va entendre tout de suite un extrait de ce texte où il est encore une fois question de fantômes.
Qui voit le spectre ? Nous ne voyons pas le spectre. Nous sommes tristes, mais nous peinons à comprendre pourquoi. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin, dit le vers de Heine. Lorsque nous pensons à la chute du mur, nous repassons en notre conscience le souvenir des jours heureux de l'ouverture, de la brèche. La nostalgie de ces jours est notre plaisir, le petit pincement des temps heureux qui, avec les années, s'intensifie et se teinte de patines agréables. Nous fêtons. nous ne cessons de fêter, de commémorer, comme s'il convenait de prolonger l'ivresse où nous étions pour persévérer dans l'illusion d'un monde libéré, enfin réveillé de l'enchantement trouble, meurtrier des idéologies. Si nous sommes tristes, croyons-nous, c'est bien de voir que ce temps-là est clos, terminé. Et si quelqu'un se dresse, lève le doigt pour dire tout simplement que nous ne sommes toujours pas libres, nous nous empressons de lui rappeler « Et les familles berlinoises alors ? Les familles berlinoises qui ont été si longtemps séparées, croyez-vous qu'elles sont tristes que le mur soit tombé ?» Celui qui toujours nie, le mauvais esprit en moi, serait tenté de répondre que la réunion de famille a accouché non pas d'une fête, mais d'un drame. Ce serait le début d'un roman. Le frère retrouve sa sœur. Le mur est tombé. Ils s'embrassent. Puis, au bout de quelques mois, la dispute commence. Les vieilles rancœurs rejaillissent et tous les fantômes de la lignée les empoisonnent. Le frère et la sœur finissent par se brouiller. Une vieille possession, une maison du grand-père qu'ils ne veulent ni l'un ni l'autre céder est l'objet de leur convoitise, de leur rage. Et les voilà qui séparent la maison en deux. Ils construisent à leur tour un mur à l'intérieur qui traverse les chambres, le salon, qui coupe la cuisine et la bibliothèque, un mur de part et d'autre duquel ils s'installent. Le frère et la sœur, désormais, ne s'adressent plus la parole. Ils portent chacun une vision du monde, une Weltanschauung, chacun, deux êtres irréconciliables dans une maison commune. Mais il n'est pas dans notre intention de contester les joies des retrouvailles. Seuls les visages hébétés du jour d'après nous intéressent. L'effroi de ces visages, les questions contenues dans leurs regards, la déambulation des corps dans Berlin, déambulation étrange, inhabituelle, de novembre 1989. Alors, dans ce flottement des jours qui ont suivi la chute, qui voit le spectre ? Qui sent dans cette promenade la présence des fantômes ? Quelle caméra parvient à filmer, en plus des libérés, de nos frères européens de l'Est, les esprits transparents des morts qui profitent de la brèche pour recouvrir l'Europe comme un nuage ? Il n'y a pas de détail qui ne soit intelligible. Tout, dans l'histoire de la chute et des années qui ont suivi, a fini par se ranger dans l'ordre des significations nouvelles. Le mur est tombé. Au centre de l'Europe, à quelques mètres de la porte de Brandebourg, l'Allemagne et Berlin ont décidé de construire un cimetière, un simulacre de cimetière pour contrôler, maîtriser, pérenniser la mémoire. Puis ce fut le triomphe des prêtres de la morale nouvelle. Malgré les spécificités des deux régimes, on relaya les sermons du socle arentien, antitotalitaire de la grand-messe européenne, sermons qui accompagnèrent l'édification des temples qui ont la tête en bas, vers les profondeurs. Ainsi, du H de la honte, nous passâmes au H de la hantise. Quel autre lieu mieux qu'un cimetière pour le théâtre de nos apparitions ? Et dans ce cimetière, curieusement, je le vois, il est poussé un être, un arbre qui n'a jamais été aussi près de nous représenter.
Alors dans ce passage, vous évoquez cette joie qui, selon la mémoire collective, a accompagné la chute du mur. Mais c'est pour dire tout de suite que cette joie fait écran autre chose, à une tristesse qui était déjà là depuis le départ. De quoi est-ce qu'elle est tissée, cette tristesse ?
En tout cas, peut-être une des premières questions que je me pose encore plus de 10 ans après la publication de ce livre, c'est pourquoi dès l'âge de 15 ans, alors que le mur tombe et que tout le monde est en liesse, j'ai moi 15 ans, je regarde la télévision et je sens quelque chose comme un contrepoint. Ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est que il y a un passager embarqué, un peu clandestin de cette grande histoire, puisque vous connaissez peut-être cette image, enfin, je ne sais pas si vous allez la voir à distance. Vous voyez, de Rostropovitch, vous avez peut-être vu ça à la télévision dans les commémorations. C'est un violoncelliste fameux de l'histoire soviétique, qui est un dissident, et qui a dû quitter l'Union soviétique, qui avait dû quitter son pays, donc, qui était passé à l'Ouest, comme on disait à l'époque, et qui, le jour de la chute du mur de Berlin, a appelé notamment des membres de ma famille, parce qu'ils se connaissaient bien, il y avait des amitiés, et pour aller, pour dire je veux aller jouer, pour célébrer la chute du mur de Berlin. Et donc il est parti avec, et ma mère était du voyage. Et donc dans l'image, enfin là, pas sur cette image, mais juste à droite, dans l'angle mort de la photographie, il y a ma mère qui accompagne Rostropovitch, les gens l'appelaient Slava. Et en fait, il joue, j'essaye de trouver la playlist de Rostropovitch ce jour-là. C'est difficile parce que les extraits qui restent sont pas complets, mais bon, il y a la première, peut-être il y a le prélude de la première suite de Bach, il y a certainement une sarabande qu'on entend. Et en fait, si on écoute les morceaux, il y a quelque chose, en fait, et je relisais d'ailleurs ses déclarations récemment, et en fait, il dit, j'y suis venu pour jouer. Enfin, j'ai joué ce jour-là en souvenir de toutes celles et ceux qui sont morts derrière ce mur. Donc vous voyez encore le violoncelle, c'est un instrument, bon, vous savez peut-être, vous le ressentez, mais enfin, moi c'est toujours un instrument qui... On dit souvent que c'est l'instrument qui se rapproche le plus des voix, notamment des voix paternelles. Mais c'est quelque chose qui fait trembler, il y a un corps, il y a un tremblement du corps particulier à l'écoute du violoncelle. Et là, il y a quelque chose dans cette audition, dans ce concert improvisé juste devant Checkpoint Charlie, qui porte en fait ça, le nom des disparus. Enfin, c'est comme s'il convoquait tout un tas de morts. Et je pense que j'avais senti ça enfant, et que quelque chose portait une certaine forme de tristesse. Et j'ai essayé de la comprendre. Alors c'est vrai, dans le livre, je dis par ailleurs que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était la disparition de deux espoirs, en fait. C'était vraiment la matérialisation qu'il n'y aurait plus un ailleurs de l'autre côté. C'est assez intéressant qu'il y ait en fait quelque chose à opposer à la réalité. Tout le 19e siècle, c'est l'histoire d'écrivains, de poètes, de politistes, d'écrivains y compris d'utopistes, qui ont cherché à opposer quelque chose au capitalisme, à la société utilitariste, à l'usine, au désenchantement de l'usine, à la vie bourgeoise, à l'ennui. Vous voyez ce travail, cet effort permanent pour qu'il y ait quelque chose d'autre à espérer de l'existence que simplement ce qui est là. Et bien, je pense qu'au XXe siècle, il y a quelque chose qui, en quelque sorte, en tout cas dans la deuxième moitié, structuré vraiment géopolitiquement par une frontière, cette possibilité qu'il y avait quelque chose. Et malgré tous les désenchantements qu'on avait depuis 1956, depuis l'intervention à Prague, depuis enfin toutes les répressions dont on, enfin qui étaient sues, qui étaient connues, il y avait quelque chose de l'ailleurs, de l'autre côté. Les gens de l'Est espéraient que leur vie ressemble à la vie rêvée qu'ils avaient, l'idée qu'ils se faisaient de la vie des gens de l'Ouest. Les gens de l'Ouest, pour certains, continuaient avec cette sorte d'espoir. Qu'on appelait le marxisme, mais qui n'était rien d'autre que ce que Ernst Bloch en faisait, c'est-à-dire un principe espérance, c'est-à-dire quelque chose à opposer au verdict définitif de la réalité, quoi, qui est ce verdict dans lequel on est encore aujourd'hui. Et puis, c'est intéressant parce que, comme les textes se déplacent, mais là, en le réentendant, je pensais en fait de nouveau à ce qu'on appelle ce nouveau rideau de fer qui est en train de s'élever entre une vérité construite de la Russie, un certain récit, mais qui est impartageable avec un autre récit. Et je retrouve d'ailleurs ce que je crois toujours, c'est que nous vivons dans des foyers narratifs, quoi. Nous sommes attachés à des histoires. Et même s'il y a régulièrement ce verdict de la preuve, et c'est vrai qu'à l'Ouest, en tout cas dans le cas de la situation contemporaine, il y a évidemment des instances de preuve. Il y a des verdicts de preuve. On en passe, on se heurte quand même à la preuve. Mais il y a des récits qui se libèrent complètement de la preuve. C'est le cas de la Russie actuellement. Et je retrouve aussi ça, mais cette fois-ci sans espérance. C'est curieux. Il y a deux foyers narratifs totalement irréconciliables et impartageables. Et là, en 89, c'était ça. C'était l'effondrement d'un foyer narratif autre qui promettait qui la liberté d'un côté, qui plus d'égalité et de justice de l'autre. Et pour moi, l'historiographie des 20-30 dernières années tient dans ce moment où tout d'un coup, le monde s'est résorbé. Il n'y avait plus qu'un... D'ailleurs, on a parlé de fin de l'histoire. Et j'avais beaucoup travaillé sur ce que ça signifiait, ce verdict de la fin de l'histoire. Et c'est ça que... Enfin, le être et le boulot fait le récit de cette retombée de ces deux foyers narratifs. Voilà.
D'où la nécessité pour vous aussi de prendre en compte les sentiments. C'est ce que vous écrivez dans ce livre. Vous écrivez « J'ignore s'il arrivera un jour où la philosophie prendra les sentiments au sérieux, mais si ce livre pouvait y contribuer, il aura accompli une partie de sa charge. Aller contre la preuve, c'est aussi reprendre en compte cette tristesse européenne qui donne son nom à votre livre. »
Oui, je vois que depuis, en fait, là c'était 2009, il écrivait déjà, mais enfin quelqu'un comme Georges Didier Huberman, qui est bien connu au Centre Pompidou, c'est quelqu'un qui prend les affects très 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 au sérieux. Je crois qu'en fait les affects en histoire, c'est tout. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup par rapport aux faits. Les faits, c'est une chose, mais les affects, c'est ce qui fait l'histoire, c'est ce qui la met en marche. Et puis il y a un continuum chez moi, de toute façon, c'est que ça, c'est le grand débat du 19e siècle. C'était justement, est-ce qu'on va pas trop loin dans le sentiment? C'était toute la charge contre les romantiques ou autres. Je crois qu'en fait, c'est simplement un constat assez simple de dire qu'il y a des affects en histoire. Femmes en larmes, femmes en armes. C'était un des titres de Georges Didier Huberman, où il décrit une scène dans le cuirassé Potemkin où ce sont les pleurs d'une femme qui déclenchent l'émeute. Les pleurs d'une femme sur le corps d'un enfant tué qui déclenche l'insurrection, la révolte. En fait, on est totalement traversé par des affects. Et je dirais que dans cette palette très large des affects en histoire, il y a avec quoi je voulais aussi commencer tout à l'heure quand je parlais de l'inconscient collectif. Et je pense qu'il y a une erreur d'ailleurs dans la définition c'est Jung qui avait été un peu disqualifié par Freud, mais enfin qui était quand même un très sérieux compétiteur de ce moment émergent de la psychanalyse, qui a écrit des choses quand même très très puissantes sur les archétypes. Mais je pense qu'il y a un endroit où je ne le suis pas, c'est qu'il définit l'inconscient collectif comme quelque chose de stable. Et là, je rejoins Hervé Mazurel. Je pense que l'inconscient collectif, ça fait partie de ces forces qui nous traversent. Dedans, je mets les fantômes. Dedans, je mets des affects qui viennent de très loin, qui sont des affects transgénéalogiques. Mais il se déplace, en fait. Il change, il mute. Et quelqu'un de l'âge de mes parents, en 89, au moment de la chute du mur de Berlin, ne pouvait pas éprouver autre chose que de la joie. Mais moi, qui étais le suivant, qui était la génération d'après, avec un écart, etc., j'étais en mesure de sentir de la tristesse. Et donc, on est absolument, en fonction des phases et des phases de vie, on n'est absolument pas traversé par les mêmes affects. Lorsque on commence à nous seriner après 89 sur la fin de l'histoire, et que moi je me dresse comme un jeune homme contre cette idée que l'histoire soit terminée en disant « mais non, moi j'arrive, comment l'histoire peut s'achever ?» C'était comme un enfant, je l'ai dit, je l'ai décrit, j'en ai parlé comme ça, je disais en fait c'est un enfant qui dit quand le livre se termine qu'il faut en rouvrir un autre. Donc ça, c'était la part d'infini. C'est qu'il y a d'infini dans l'histoire, mais simplement à l'endroit où on est dans le cycle, on va pas du tout recevoir de la même manière les grands récits. Et on va pas s'y confronter ou s'y opposer de la même manière.
Une manière de recevoir l'histoire, il en était question dans le texte qu'on a entendu tout à l'heure, c'est cette honte très forte et collective, cette hantise qui se transforme en hantise très forte et collective. Et vous développez cette idée qu'on est entré dans un régime de la mémoire, c'est-à-dire qu'on est tellement omnubilé par ces crimes du XXe siècle, tellement omnubilé par l'obsession de ne pas les reproduire, que l'histoire se paralyse, l'histoire se fige, et on est incapable de se tourner vers l'avenir, voilà, incapable de se transformer, d'inventer, d'imaginer, voire de protester. Qu'est-ce qui permettrait de rouvrir cet avenir ?
Alors, en fait, c'est vrai, dans Le Être et le Boulot, je parle de ça, et je dis même que c'est un moment, on est donc en 2009, et j'écris sur le temps après la chute du mur de Berlin. Donc je parle d'un temps, en fait, qui court, disons, de les premiers films documentaires sur l'histoire de la Shoah. Donc on remonte jusqu'aux années 50, mais en fait ce qu'on voit dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est progressivement la remontée des fantômes, comme un inventaire sur les crimes du XXe siècle, pour nommer les disparus, pour les convoquer et les nommer, pour qu'ils fassent partie en quelque sorte du commun européen de la fin du XXe siècle. Mais je crois que ça a beaucoup évolué. Je parlais donc de pouvoir mnémonique, c'est-à-dire que on était vraiment dans un. Enfin, moi, je me souviens du refrain enfant. C'était plus jamais ça. C'était ce qu'on apprenait à l'école. C'était il faut pas que ça recommence, etc. Récit ou refrain que j'écoutais avec un grand soupçon, parce qu'évidemment ça recommence. Moi, à peine sorti du bac, c'était la guerre en Yougoslavie. Pour qui a appris la guerre de 14, on sait d'où c'est parti. Donc, la guerre des Balkans, le fait que c'était un continuum avec la disparition de l'Empire austro-hongrois, tout ça était absolument clair. Donc, moi, ce qui m'a très, très vite frappé, c'est pas seulement qu'il y ait un socle historique ou anhistorique qui a été voulu par des leaders politiques européens pour dire plus jamais la guerre, plus jamais la guerre, plus jamais la guerre, ce qui était un refrain plutôt louable. Je pense qu'ils s'y sont très mal pris, parce que c'est pas en montrant aux enfants et en leur mettant la tête dans les horreurs du XXe siècle que, en fait, on leur apprend à vivre en paix. Je pense que la paix, c'est autre chose que montrer les horreurs de l'histoire. Mais ça demande une autre instruction, ça demande une autre pédagogie. Ça me touche beaucoup de le dire, mais c'est tout autre ce qui est à penser. Mais il se trouve qu'ils ont pensé les choses comme ça. Et donc, on a appris le XXe siècle, notamment en Allemagne, ça s'appelle Erinnerungskultur. En France, c'était le devoir de mémoire. Donc ça, c'était la croyance. Vous voyez, la croyance, c'était on enseigne l'histoire, on enseigne les monstruosités du siècle, et comme ça, les gens ne voudront plus la guerre, et il y aura la paix, et l'Europe sera enfin sortie de l'histoire. Qui est donc une illusion du pouvoir. Penser qu'on peut contrôler quelque chose comme la pulsion de guerre, la pulsion de mort, mais bon, il y a un effort, c'est louable, ici, si on mal pris, très bien. Mais moi, très vite, ce que je vois, c'est autre chose, c'est comment, en fait, la convocation des morts produit de nouvelles violences, en fait. Comment les deux s'articulent? C'est-à-dire, j'ai pas du tout été moi seulement le témoin d'une fixation de ce pouvoir mnémonique. J'étais également le témoin du fait que ce pouvoir de fixation était percé de toutes parts et à tout instant depuis qu'il était en quelque sorte annoncé par ce refrain de la fin de l'histoire. Et donc, moi, je n'ai fait que consigner les moments où cette prophétie anhistorique de la paix éternelle à laquelle l'Europe aspire toujours était démentie, quoi. C'était le long et douloureux démenti d'un espoir de sortir de l'histoire. C'est ça qu'on a vécu dans la guerre en Yougoslavie, les guerres dans les pays arabes. Enfin, cette persistance, je parle jusqu'au XXIe siècle, c'est la Syrie. Enfin, c'est que ça ne s'arrête pas. Et bon, là, jusqu'aux guerres ukrainiennes. Mais ce qui me permet, moi, de me sauver d'un simple fatalisme de bon, bah, il y a une pulsion de mort, et c'est de rentrer dans la compréhension de ce qui se joue. Et là, pour moi, c'est plutôt les usages guerriers de l'histoire qui je trouve, sont partout réarmés. Depuis le nationalisme autrichien des années 90, l'élection de Jörg Haider, tout était déjà là. Les nationalismes des Balkans, c'était déjà là. Et là, dans ce que j'observe en travaillant sur Babel, ou sur Le Être et le Boulot, ou même sur Thésée, c'est chaque fois la façon dont l'histoire est un instrument formidable pour se rejeter dans une nouvelle dans une nouvelle épopée guerrière. Mais quelque chose résiste, c'est vrai, du côté de cette Europe de l'Ouest qui est maintenant s'est étendue à l'Est. Quoi. Quelque chose résiste, je crois, du fait d'un effroi. Moi, je vis en Berlin depuis 10 ans, et les gens, plus encore qu'en France, qui pour moi, la France a toujours... Vous savez, la France, moi, c'est comme ça que je le vois quand je vis en Allemagne. La France, c'est beaucoup de gens qui aimeraient vraiment regarder vers l'Atlantique et qui sont en permanence obligés de regarder derrière parce que c'est de là que vient le danger. Il y a quelque chose comme ça d'un... Ah oh non, on aimerait tellement... Enfin, pour moi, toute l'histoire de mes parents, c'est ça. Ils regardaient vers l'Ouest. Et puis moi, très vite, je leur ai dit non, mais il faudrait peut-être regarder de l'autre côté parce qu'en fait, c'est de là que vient le danger. Et donc, ça, c'était l'Allemagne. Le danger, c'était l'Allemagne pendant un siècle, un peu plus d'un siècle. Maintenant, c'est la Russie. Après, ça a été la Russie. Après, c'était l'Union soviétique. Après, c'était la Russie. Et donc, en France, ils sont bas. En Allemagne, il y a un effroi tel à l'idée de la guerre. Ça traverse les corps. C'est les nouvelles de l'entrée en guerre en Ukraine. C'était les gens étaient autour de moi. C'était et lorsqu'ils ont annoncé qu'ils réarmaient en Allemagne, une terreur. Parce que tout d'un coup, ils sont tous traversés par 4 générations d'histoire de la force, de la violence, d'une Allemagne trop puissante, d'une Allemagne armée. Donc, on est traversé par des forces tellement, tellement puissantes que toute aspiration à la paix doit certainement passer par autre chose que simplement le socle mémoriel que je décris dans le être et le boulot.
Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce texte, et notamment sur le travail que vous faites sur la lettre H. Vous citiez tout à l'heure Pérec, l'histoire avec sa grande H. Et dans ce texte, voilà, vous tournez beaucoup autour de ce signe. On entendait la honte, la hantise, le être aussi. Mais je voudrais qu'on laisse peut-être quelques minutes au public pour poser des questions. Peut-être une toute dernière, je vous demande de faire vite, sur la psychogénéalogie dont il était question au tout début de cette rencontre. C'est cette discipline, donc la psychogénéalogie, pour le dire très très vite, qui est une branche un peu décrite de la psychanalyse, mais qui revient en force aujourd'hui et qui postule que des traumatismes très très anciens peuvent traverser les générations et nous impacter même des générations après. Et comment est-ce qu'à partir de cette pratique à laquelle vous vous intéressez beaucoup, vous faites le lien entre un petit peu tout ce qui a été évoqué là pendant cette soirée, à savoir l'histoire des corps, l'histoire des générations, et puis l'histoire plus collective?
Oui, très vite.
Pardon.
Non. Mais je vais en tout cas vous parler d'une chose, parce que j'ai depuis Thésée sa vie nouvelle, qui a été un livre qui a été lu par un épigénéticien d'Oxford, qui connaissait lui pas la psychogénéalogie, parce que lui, il s'occupe quoi? Il s'occupe de la matière humaine, de ce qui se passe dans les gènes. Et il a été bouleversé par sa lecture. Alors on a démarré une correspondance et il m'a envoyé un mot il y a 2 jours en me disant qu'il était en train de lire le livre qui retraçait une recherche où on étudie l'impact sur certains gènes des générations de survivants de l'Holocauste, de l'extermination des Juifs d'Europe, donc des camps, des déportés, donc ceux qui sont revenus, des survivants. Et c'est exactement ce que j'écris dans Thésée, me dit-il. Parce que on voit maintenant, jusque-là, donc je réponds à la psychogénéalogie, jusque-là, on a une tentative d'approche. On sait qu'il y a des choses qui sont des transmissions inconscientes, qui passent. Je parlais des très grandes forces qui nous traversent. Il y a des choses qui nous traversent. On essaye de les flécher, de les tracer, et on n'arrive jamais vraiment à l'expliquer. Et puis c'est là où les sciences, en quelque sorte dures, arrivent. Et jusque-là, elles disaient, non. Le gène, lui, il n'est pas modifié. Donc, c'est de la culture, c'est de l'acquis, c'est de l'histoire, c'est des gestes familiaux, c'est des gestes, c'est des non-dits, c'est des omissions, c'est tout le registre et tout le périmètre formidablement puissant de la psychanalyse, évidemment. Mais là, maintenant, on en est au point, et donc dans cet extrait qu'il citait, on en est au point où on peut observer la modification des marqueurs génétiques, donc l'épigénétique, donc par des marqueurs, d'un certain nombre de gènes. Notamment, là, il décrivait un gène qui est lié à la capacité à résister à des traumas. Et il disait que ça s'est modifié, c'est-à-dire que les générations successives, leur matière physiologique, leur matière corporelle, leur manière de réagir à des situations traumatiques. Et c'était très touchant parce qu'évidemment, nous, on est toujours à chercher des bonnes nouvelles. Et donc, la question était de savoir si les générations suivantes, les enfants des survivants, ont une capacité de résilience, comme dirait l'ami Boris Cyrulnik, plus grande. Est-ce que, en fait, parce que leurs ancêtres, leurs aïeux, ont été soumis à des chocs traumatiques de grande, grande ampleur, est-ce que, oui ou non, les générations suivantes sont plus aptes à résister? Et il disait donc que dans l'étude, on était encore incapable de le dire. Mais en tout cas, il voyait déjà cette transformation-là. Et donc ça, c'est un lieu fascinant. Après, moi, je m'intéresse à ces questions parce que je pense que la littérature, telle que je l'ai étudiée, telle que je l'ai apprise et telle que je l'enseigne, la littérature est à la fois l'annonciatrice de changements, à la fois du savoir, de l'ordre du savoir, de changements techniques, de changements sociaux, et elle est aussi modifiée dans ses structures et dans ses modes d'énonciation par les changements scientifiques notamment. Et donc ça, je m'intéresse à ça parce que je me questionne sur la manière d'écrire l'état du savoir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on écrit le récit de l'histoire lorsqu'on sait que c'est la matière des corps qui est modifiée, qui est transformée par notamment les traumas de l'histoire.
Merci Camille de Toledo pour toutes ces réponses. Vous entendez, vous entendez bien là, je crois, cette manière qu'a Camille de faire dialoguer les disciplines. Je disais tout à l'heure que c'est un peu le cœur de ce cycle de rencontres à la BPI. Et là, voilà, entre l'épigénétique, la psychogénéalogie, l'histoire, la littérature, voilà, vous voyez bien comment tout ça se dialogue. Mais maintenant, la parole est à vous si vous avez d'autres questions. Je précise juste, en attendant que quelqu'un se décide, que les livres sont en vente à l'extérieur de la salle et vous aurez peut-être la possibilité de vous faire dédicacer un livre si vous en avez envie. Pas de questions?
Tout était parfaitement limpide.
Bon.
Eh ben merci alors pour votre écoute. Très bonne soirée.